programme en rediffusion sur VOA Afrique.
Washington, la voix de l'Amérique, Amigro Didier avec vous pour cette édition de Carrefour Science et Santé, un programme que je vous invite à suivre également sur le réseau Afrique Santé de la VOA. Quelques titres tout d'abord, les populations d'animaux marins ont chuté de moitié depuis les années 70 du fait de la surpêche, de la pollution et du changement climatique. Tel est l'avertissement du Fonds mondial pour la nature.
Le constat est sans appel. Les populations d'animaux marins ont décliné de 49% entre 1970 et 2012.
On entendra Diane Simiou, directrice des programmes de conservation au WWF France. Pas d'expresso à la fin du dîner, sinon vous ne pourrez pas dormir. Voilà, c'est scientifiquement prouvé, confirme une nouvelle étude. Avec le vieillissement de la population, la démence devient un problème de santé majeur.
Selon l'Organisation mondiale de la santé, environ 60% des personnes victimes de démence vivent dans des pays où l'on manque de ressources pour les encadrer.
On suivra les explications de Morgan Guiriec et de nouveaux clichés répercutés par la sonde New Horizons révèlent une diversité et une complexité de reliefs inattendus sur Pluton. Les populations d'animaux marins, qu'il s'agisse de mammifères, des oiseaux, reptiles ou poissons, ont chuté de moitié depuis les années 1970 du fait de la surpêche, de la pollution et du changement climatique, avertit le Fonds mondial pour la nature. L'action de l'homme est à l'origine de ces tendances, de la surpêche et des industries extractives à l'aménagement du littoral et à la pollution, en passant par les émissions de gaz à effet de serre responsables de l'acidification océanique et du réchauffement des mers, explique l'organisation internationale basée en Suisse dans un nouveau rapport. Pour plus de précisions, on écoute Diane Simiou, directrice des programmes de conservation au WWF France.
Nous avons publié cette semaine le rapport Planète vivante océan du WWF qui dresse un état des lieux de la santé des espèces marines et de leurs habitats. Alors le constat est sans appel. Les populations d'animaux marins ont décliné de 49% entre 1970 et 2012. Et la chute est encore plus marquée pour les espèces les plus prisées, 75% en moyenne pour les espèces de la famille du thon, du maquereau et de la bonite. Autre exemple, les populations de poissons d'eau profonde de l'Atlantique Nord ont chuté de 72% au cours des 40 dernières années.
Et pourtant, on ne cesse de lancer des cris d'alarme justement sur la disparition des espèces marines. Mais il n'empêche que le pillage des océans se poursuit.
Effectivement, ce qu'on voit, c'est qu'en l'espace d'une seule génération, les activités humaines ont gravement dégradé les océans. C'est-à-dire qu'on capture les poissons plus vite qu'ils ne se reproduisent. Et puis, par ailleurs, on détruit leur habitat, notamment les endroits où ils se reproduisent, où ils grandissent, les nourrisseries. Par exemple, le rapport montre l'étendue de la destruction des habitats marins, notamment les récifs coralliens, les mangroves et les herbiers marins. La moitié des récifs coralliens a déjà disparu et la totalité pourrait disparaître du globe d'ici 2050 sous l'effet du changement climatique.
Et qu'en est-il des populations de phoques, dauphins ou encore de tortues ?
Ces populations-là sont effectivement particulièrement vulnérables. Je vous donne l'exemple des tortues. Ce sont des espèces formidables qui sont capables de migrer sur de très très longues distances. Mais pour autant, les changements climatiques notamment, auxquels elles sont confrontées, risquent de faire en sorte qu'elles disparaissent parce qu'elles ne pourront pas s'adapter. Je vous donne un exemple pour les tortues. Ce qu'il faut savoir, c'est que la température détermine le sexe ratio des œufs de tortue. Et donc, plus la température augmente, plus le pourcentage de femelles est élevé. Et donc, on risque d'aller vers des populations qui ne sont pas équilibrées entre les mâles et les femelles, ce qui aura bien sûr un impact sur la reproduction de l'espèce.
Mais ironiquement, les gouvernements accordent des subventions absolument faramineuses aux flottilles de pêche qui causent ces destructions.
Tout à fait. La flotte de pêche aujourd'hui, elle est 2 à 3 fois plus importante que ce que l'océan ne peut durablement supporter. Et c'est notamment lié, vous l'avez dit, à ces subventions qui encouragent la surpêche, qui représentent près de 35 milliards de dollars. Or, la surpêche, c'est la principale menace aujourd'hui, puisque 30% des stocks de poissons sont surexploités, 60% sont exploités à leur maximum, et ce phénomène est encore aggravé par le fléau de la pêche illégale, qui représente 20% des captures de poissons.
Alors, qu'est-ce que les particuliers peuvent faire au niveau, disons, de leurs habitudes alimentaires, de l'épicerie, pour essayer d'aider à rétablir un peu l'équilibre des océans?
Chacun a un rôle à jouer. Hein. Chacun peut choisir d'avoir une consommation plus responsable de produits de la mer en choisissant des poissons qui sont labellisés MSC pour les poissons sauvages et ASC pour les poissons d'élevage. Ce sont deux labels qui permettent de s'assurer que les stocks sont gérés durablement et que les impacts sur les écosystèmes et les espèces sont minimisés. Et puis, il y a des poissons qu'il faut s'interdire de consommer, comme la raie, comme le requin. Il y a des poissons qu'il faut éviter autant que possible. Ce sont tous les poissons d'eau profonde, par exemple la lingue bleue, le sabre noir, le grenadier. D'autres aussi, comme le turbo, le rouget barbet, la dorade rose, la dorade royale. Donc, il y a des espèces à éviter. Et puis, il y en a d'autres, en revanche, qu'on peut consommer sans remords.
Par exemple?
Alors, il y a le lieu noir, le taco, l'aigle fin, par exemple.
Des gouvernements doivent adopter de nouveaux objectifs de développement durable aux Nations Unies. Alors, qu'est-ce qu'ils peuvent faire du côté de la surpêche?
Il y a 2 échéances majeures dans les jours et semaines à venir. Donc, la semaine prochaine, les chefs d'État du monde entier vont adopter les objectifs du développement durable des Nations Unies. Et l'un de ces objectifs porte spécifiquement sur les océans, ce qui est une bonne nouvelle. Donc il y a vraiment, parce qu'il y a vraiment une prise de conscience que l'effondrement des écosystèmes marins, c'est pas seulement une catastrophe écologique, il y a aussi des conséquences économiques et humaines qui sont dramatiques, notamment pour la sécurité alimentaire. Parce que le poisson représente la principale source de protéines animales pour près de 3 milliards de personnes dans le monde, et en particulier dans les pays les plus pauvres. Donc cette course au poisson risque véritablement de compromettre les efforts qui sont faits pour lutter contre la pauvreté et la malnutrition. Maintenant, donc ça c'est effectivement un engagement qui vont être pris, il faut qu'il se traduise par des décisions concrètes et des investissements concrets. L'autre échéance qui est très importante, c'est la conférence des Nations Unies sur le climat qui se tiendra à la fin de l'année à Paris. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'océan joue un rôle très important dans le climat, parce que ça régule le climat. L'océan absorbe 30% de nos émissions de dioxyde de carbone, ce qui permet de limiter les effets du changement climatique. Ce serait nettement pire sans l'océan, mais l'océan en souffre énormément. Il souffre du réchauffement, il souffre de l'acidification, qui vient encore aggraver les effets des menaces plus traditionnelles, que sont la surpêche, la dégradation des habitats, la pollution. Or, aujourd'hui, les engagements qui sont pris pour réduire les émissions de gaz à effet de serre sont très très loin de suffire à éviter des niveaux de réchauffement et d'acidification jugés désastreux pour les systèmes océaniques dont, en fin de compte, on dépend tous. Donc, c'est pour ça qu'on attend des décisions fortes à la fin de l'année, parce que lutter contre le dérèglement climatique, c'est aussi agir pour protéger les océans.
Madame Diane Simiou, directrice des programmes de conservation au WWF France. Ici Washington, Camille Grosdidier avec vous pour Carrefour Science et Santé. Toujours concernant le climat, Los Angeles accueillait cette semaine le sommet sino-américain des dirigeants sur le climat. À cette occasion, les États-Unis et la Chine ont paraffé une série d'accords visant à réduire les gaz à effet de serre. Ce sommet de 2 jours a réuni des gouverneurs et maires américains avec leurs homologues chinois pour la conférence sur les villes écologiques et à basse consommation de carbone à Los Angeles, en Californie. Il s'agissait d'une première du genre au niveau provincial et municipal entre les deux pays. Les États-Unis et la Chine, le plus grand pays développé et le plus grand pays en développement au monde, représentent à eux seuls 40% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Dans leur déclaration finale, les responsables des deux puissances se sont engagés à réduire ces gaz. Et montrer l'exemple est vital, a fait valoir le vice-président américain Joe Biden. Et les mesures prises lors de ce sommet auront un impact sur toute la planète, a-t-il dit. Vous écoutez Carrefour Science et Santé sur les ondes de la Voix de l'Amérique, au micro Camille Grosdidier. Si vous carburez au café, eh bien n'ayez aucun complexe. Vous n'êtes pas seul, loin de là. Il s'agit de la drogue la plus consommée et la plus appréciée au monde. Mais voilà, tout le monde sait qu'il vaut mieux ne pas en abuser le soir si l'on veut dormir. Et maintenant, c'est prouvé scientifiquement. Salwa Jafari.
Attention, si vous comptez vous coucher, pas question de prendre un petit café, car cela retardera votre sommeil d'une quarantaine de minutes. On le savait, mais c'est maintenant prouvé grâce aux travaux de recherche de l'Université du Colorado à Boulder et l'enquêteur du Medical Research Council Laboratory of Molecular Biology à Cambridge, en Grande-Bretagne. L'avertissement est des plus sérieux, car il est courant pour les amateurs de couronner le repas d'un double expresso, alors même que certains restaurants les préparent avec plus de caféine que d'autres. Kenneth Wright, professeur de psychologie à l'Université du Colorado à Boulder, principal co-auteur de ces travaux parus dans la revue scientifique américaine Science Translational Medicine, explique « En effet, le café ne maintient pas seulement éveillé. Il repousse le moment de dormir et de se réveiller au niveau cellulaire. C'est important car l'horloge circadienne affecte également la production d'hormones et de régénération des cellules dans le corps humain. Être privé de sommeil affecte également la bonne humeur d'un sujet et pourrait aller jusqu'à favoriser le diabète. Les chercheurs ont recruté 5 personnes, 3 femmes et 2 hommes qui ont été soumis à différentes expériences avec la caféine pendant 49 jours. Les sujets ont été soumis à 4 situations combinant différentes luminosités et doses de caféine. Les participants de l'étude qui ont pris un comprimé de caféine avec une faible luminosité ambiante ont connu un retard d'environ 40 minutes dans le début de la phase de sommeil de leur rythme circadien par rapport à ceux ayant absorbé un placebo.
Ici Washington, vous suivez Carrefour Science et Santé avec Camille Grosdidier. De nouveau, cliché de Pluton répercuté par la sonde spatiale New Horizon révèle une diversité et une complexité de reliefs inattendus. C'est ce que signale l'agence spatiale américaine, la NASA. Des détails avec Nathalie Barge.
Ces dernières images, qui ont plus que doublé la superficie visible de Pluton avec jusqu'à 400 mètres de précision, dévoilent une complexité étonnante de reliefs. Des coulées de glace d'azote descendant de régions montagneuses vers des plaines, des monts ressemblant à des dunes, et même un réseau de vallées peut-être creusé par des matériaux coulant à la surface de la planète. La surface de Pluton est aussi complexe que celle de Mars, constate Jeff Moore, géologue au centre de recherche Ames de la NASA. Les montagnes pourraient être de gigantesques blocs de glace d'eau flottant dans un vaste dépôt plus dense d'azote gelé qui se trouve dans une plaine appelée le Sputnik Planum, ajoute-t-il dans un communiqué. D'importantes zones montagneuses aux reliefs chaotiques rappellent certains reliefs sur Europe, une des lunes glacées de Jupiter. Si ce sont bien des dunes que l'on voit sur Pluton, ce serait réellement extraordinaire car l'atmosphère de la planète naine est trop fine pour produire des vents, a souligné Bill McKinnon de l'Université Washington de Saint-Louis, l'un des responsables scientifiques de la mission. Soit Pluton a eu une atmosphère plus épaisse dans le passé, soit d'autres processus que nous ne connaissons pas sont à l'œuvre. C'est un casse-tête, ajoute-t-il. Néanmoins, cette atmosphère fine est composée de davantage de couches que l'on ne le pensait jusqu'à présent. Une autre découverte de la sonde New Horizons.
Vous êtes à l'écoute d'un programme en rediffusion sur VOA Afrique.
Au micro, Camille Grosdidier pour Carrefour Science et Santé. Le phénomène du vieillissement de la population continue de s'étendre aux États-Unis où des millions de baby-boomers, la tranche d'âge née entre 1945 et 1975, ont atteint l'âge de 65 ans, ce qui suscite des craintes pour le budget santé du gouvernement, car les taux de démence devraient considérablement augmenter. Le point avec Morgan Guiriec.
La maladie d'Alzheimer est une maladie neurodégénérative, incurable, du tissu cérébral qui entraîne la perte progressive et irréversible des fonctions mentales et notamment la mémoire. C'est la forme la plus fréquente de démence chez l'être humain. En août 2014, elle aurait poussé l'acteur Robin Williams à se suicider. Selon ses proches, Williams souffrait des maladies de Parkinson et d'Alzheimer et d'une paranoïa croissante. D'où l'intérêt porté à tout traitement susceptible de bloquer ou ralentir la démence dont souffrent déjà quelque 47 millions de personnes à travers le monde. Et justement, un nouveau rapport montre que la vitamine D est particulièrement bénéfique pour la mitiger. Traiter la démence est épuisant, non seulement pour les familles, mais aussi pour les victimes de la maladie.
Le pire pour moi, c'était de me perdre lorsque je conduisais. Ce n'est pas parce que j'oubliais où j'allais, c'est que j'ignorais où je me trouvais.
Selon l'Organisation mondiale de la santé, environ 60% des personnes victimes de démence vivent dans des pays où l'on manque de ressources pour les encadrer. L'étude menée aux États-Unis a cherché à établir un lien entre le niveau de vitamine D dans le sang de personnes âgées et leur capacité cognitive. Parmi les chercheurs, le docteur Joshua Miller de l'université Rutgers.
Certains des sujets souffraient carrément de démence, d'autres de déficiences cognitives légères. Et certains avaient ce que nous appellerions une fonction cognitive normale.
Environ 60% des sujets souffraient de carences en vitamine D.
Those who had dementia also had lower vitamin D status.
Ceux qui souffraient de démence avaient également davantage de carences en vitamine D que ceux toujours dotés de fonctions cognitives normales.
Mais si la vitamine D semble protégée contre la démence, impossible de déterminer si les suppléments de cette vitamine sont vraiment bénéfiques. D'autres études seront appelées à trancher sur cette question. Entre-temps, ne pas oublier de s'exposer au soleil une quinzaine de minutes par jour, histoire de faire le plein de vitamine D naturellement. Rappelons également que l'étude est parue dans la revue JAMA Neurology.
Ici Washington, Camille Grosdidier pour Carrefour Science et Santé. La croissance démographique pourrait compromettre des traditions qui protègent les personnes âgées en Afrique, à savoir le respect et les soins accordés à ces personnes. C'est ce qu'affirme l'ONG HelpAge International qui se consacre au troisième âge. Le point avec Chérubin Dorsil.
Toby Porter, patron de HelpAge International, une ONG qui se consacre aux droits des personnes âgées, offre un conseil aux gouvernements africains. Notre message, dit-il, c'est qu'il est temps de se préparer en vue du vieillissement des populations africaines. HelpAge International a récemment publié son indice 2015 du troisième âge, le Global Age Watch Index 2015, un document qui évalue la qualité de vie des personnes âgées dans les pays où plus de 90% d'entre eux résident. L'idéal pour un vieillard, constate le rapport, c'est de vivre en Suisse ou en Norvège. Le pire, c'est d'être afghan, même si nombre de pays africains sont en queue de l'indice. Cet indice n'est pas parfait, puisqu'une centaine de pays n'y figurent pas, faute de données. Notamment en Afrique, HelpAge International n'ayant pu réunir d'informations que sur 11 des 54 pays du continent. Une chose est certaine néanmoins, les Africains âgés seront confrontés à des temps difficiles si les gouvernements ne mettent pas en place les ressources nécessaires pour subvenir à leurs besoins. Car la population de l'Afrique vieillit rapidement, grâce notamment aux progrès en matière de soins de santé primaires. Certes, le respect témoigné aux anciens en Afrique est légendaire, mais avec l'essor des villes, les populations s'éparpillent et le cadre familial se fragilise. Un espoir, cependant, fait remarquer M. Porter. À la fin de cette année, les objectifs du millénaire pour le développement feront place aux objectifs de développement durable. Ce nouveau cadre de développement sera adopté pour les 15 prochaines années lors de la 70e session de l'Assemblée générale des Nations Unies à New York.
Ce sera donc une opportunité pour les gouvernements de se pencher sur les défis que doit relever le troisième âge dans les pays en développement. Quels sont-ils ? Eh bien, on écoute M. Bertin Méhance de HelpAge International.
Ok, le principal défi rencontré par ces personnes âgées est l'accès aux revenus. Vous savez, ils n'ont pas la sécurité d'emploi. Dès qu'on a un certain âge, il n'est pas facile de trouver un emploi. Et dans les pays en développement, les personnes âgées n'ont pas accès à des fonds de pension, que ce soit des pensions où elles ont contribué ou des pensions où elles n'ont pas contribué. Les personnes âgées n'ont pas accès aux fonds de pension. Dans beaucoup de pays, il n'y a pas encore de politique qui accorde aux personnes âgées une pension pour pouvoir vivre bien le troisième âge. Le deuxième défi, ce sont les soins de santé. Les personnes âgées n'ont pas accès aux soins de santé. Vous savez, les personnes âgées, non seulement elles sont victimes des maladies transmissibles, mais il y a aussi des maladies non transmissibles, telles que l'hypertension artérielle, le diabète. Il y a beaucoup de maladies chroniques dont les personnes âgées souffrent et qui demandent qu'elles soient sous médicaments pendant toute leur vie. Donc, à cause des faibles revenus et à cause aussi du manque d'infrastructures et du personnel médical, les personnes âgées sont souvent privées de soins de santé. Et en général, je pense que le plus grand défi serait le fait par les personnes âgées d'être marginalisées, d'être excluses dans les politiques publiques. Le fait que les droits des personnes âgées ne sont pas vraiment reconnus et on ne considère pas dans beaucoup de cas les personnes âgées comme des personnes vulnérables alors qu'elles sont vulnérables du fait par exemple qu'elles ne peuvent pas se déplacer facilement, du fait qu'elles n'ont pas de personne pour les aider. Parfois ce sont ces personnes âgées elles-mêmes qui prennent soin des petits-enfants parce que les parents de ces enfants sont en ville, se sont immigrés dans les villes. Donc ces personnes âgées parfois sont laissées seules, exclues, et elles se sentent parfois isolées, abandonnées.
Comment est-ce qu'on peut aider à sensibiliser les populations au problème du troisième âge?
Ah oui, il faut rappeler à tout le monde que le nombre de personnes âgées augmente. Plus les pays développent, plus la population des personnes âgées va augmenter. Les statistiques nous disent qu'en 2050, un cinquième de la population mondiale, soit 2 milliards de personnes, auront 60 ans et plus. Donc il faut dire aux populations que le vieillissement concerne tout le monde. Tôt ou tard, on est appelé à devenir vieux et on doit supporter les politiques qui assurent un mieux-être pour les personnes âgées. Je pense aussi qu'il faut s'engager dans des activités intergénérationnelles où les enfants et les personnes âgées font des échanges pour mieux se comprendre.
Monsieur Bertin Méhance de l'ONG HelpAge International. Vous suivez Carrefour Science et Santé, ici Washington. Souvent évoqué comme le carburant du futur, l'hydrogène rencontre plusieurs obstacles. Sa production avec les méthodes actuelles, telles que l'électrolyse, reste chère, peu efficace et elle impacte négativement l'environnement. D'où l'importance de nouveaux travaux permettant de produire de l'hydrogène à base de photosynthèse. Des précisions avec Eric Manirakiza.
La possibilité de produire de l'hydrogène à partir d'eau et de lumière du soleil grâce à un procédé de photosynthèse artificielle est particulièrement intéressante car théoriquement peu coûteuse et favorable à l'environnement. Des chercheurs ont d'ailleurs déjà mis au point ces dernières années des cellules solaires capables de produire de l'hydrogène et de l'oxygène par électrolyse de l'eau ou hydrolyse. Mais depuis une quinzaine d'années, le rendement de conversion de l'énergie solaire en hydrogène plafonnait aux alentours des 12%, d'où l'intérêt suscité par l'annonce que des chercheurs de l'Institut de technologie de Californie, Caltech, et du Helmholtz Zentrum Berlin, HZB en Allemagne, ont réussi à atteindre un taux de conversion de 14% de l'énergie lumineuse en hydrogène.
Voilà, ainsi s'achève cette édition de Carrefour Science et Santé de la Voix de l'Amérique. Au micro, Camille Gros-Didier, qui vous remercie de l'avoir suivi.
Vous étiez à l'écoute d'un programme en rediffusion sur VOA Afrique.
Bienvenue à bord.